Bras zéro, brassage radio. Aujourd'hui, on brasse, on touille et on malaxe des extraits d'émissions passées. Des entretiens, des lectures, des montages qui tournent autour des luttes, autour de la lutte. Parce que le sujet du jour pourrait être une sorte d'objet politique mal identifié. Une foultitude de gens décidés, pour une fois, à protester. Parce que voilà, c'en est trop, il y en a assez. On aime, on adore, on soutient. Bravo, haro sur le vieux monde. Bon, à y regarder de près, je me méfie déjà des drapeaux en général, mais là, le tricolore accompagné en plus de la Marseillaise, ça me révulse. Mais bon, faut bien commencer d'un bout, d'un endroit, de là où on est, non ? Ben ouais, il y aura peut-être des apprentissages, des complicités, des réflexions, des échanges. Peut-être que nous allons échapper à la foule effrayante des gens apeurés. Verrons-nous demain plus de gens lutter contre les frontières et les guerres coloniales ? À bas le profit, les flics et le capital ! Crierons-nous à tue-tête, occupant les usines pour les démanteler, arrêtant le travail pour ne plus jamais le reprendre, occupant les maisons pour que plus jamais personne ne reste à la rue. Peut-être, pourquoi pas ? Mais peut-être pas. La foule effrayante des gens apeurés se forme, prête à abreuver le morne sillon du vieux monde de tout le sang impur. Les réactionnaires de tous bords se disputent la tribune pour édicter leurs fausses solutions excluantes, productivistes et nationalistes. Murez vos oreilles. Chuchotons dans l'assourdissant délire médiatique, toujours nos mêmes vieilles rengaines solidaires, nos chants révolutionnaires, nos désirs de lutte sans fin pour la transformation du monde et la beauté des choses. Peut-être il y aura là aussi des oreilles attentives, des futurs complices prêts à comploter contre les normes et les lois, les flics et les censeurs pour la fin du patriarcat et du capital, contre l'organisation raciste du monde, etc., 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 etc.
Non, sinon on n'apprendrait rien.
Oui.
Bah oui. Ouais, mais on n'apprend pas des choses à l'école.
Oui.
Et en plus, sinon, jamais on irait au dojo.
Oui.
Et jamais on ferait le jeu des fourmis. Jamais des sorties.
Toi, tu voudrais faire quoi à la place de l'école, gamin ?
Rien.
Rester à la maison pour manger des barres de papa et des glaces ?
Oui.
Mais il faudrait changer quoi à l'école, toi, Lou ? Tu changerais quoi ? Si tu pouvais changer des choses à l'école ?
Rien.
Tout est bien.
Sauf quand on punit quelqu'un.
Qui c'est qui punit quelqu'un ?
Les maîtresses et les enfants et les adsem.
Et qu'est-ce qu'elle donne comme punition ?
À nous, soit à nous, mais c'est les petits, ou soit à nous, mais sur le banc à réfléchir.
Mais pourquoi il y a des punitions ?
Parce qu'on a fait une bêtise.
Et parce qu'on est pas sage.
Oui.
Et qu'est-ce que tu voudrais à la place des punitions ?
Bah, manger des glaces et des bras à papa.
Oui.
Claire. Et votre maîtresse, elle vous a pas raconté pourquoi elle faisait grève ?
Non.
Non ?
Non. Oui.
Alors, elle a dit quoi ?
En fait, parce que la réunion, parce que cette semaine, eh bien, on n'est pas content et on doit sentir Macron, t'es foutu, je suis dans l'air. Macron, t'es foutu, je suis dans l'air. Macron, t'es foutu, je suis dans la rue. Macron, t'es foutu, je suis dans la rue.
Et c'est qui Macron ?
C'est notre résidence.
Le président.
Et ouais. Pourquoi il est foutu ?
Mais parce que des fois...
Il fait du mal.
Ouais, parce que des fois, il fait des choses que c'est pas bien.
Ah. Aussi mal que Macron.
Ouais, mais en fait, tous les Macron, ils sont pas à Toulouse. Ils sont à Paris. tous. Il fait du mal, par exemple, s'il met ta main, par exemple, ici, là, il prend le couteau. Il peut te couper le fer.
En fait, il peut te prendre et te mettre dans le feu.
Et il peut, je crois qu'il peut te couper le cou. Même, il peut couper le bras.
Et vous l'avez déjà vu faire ça?
Non. Oui, moi aussi. Ouais.
Ah. Où ça? À Paris?
Ah oui, non, pas moi.
Oui, moi, oui, à Paris.
C'est sûr que pas moi, parce que moi, je l'ai jamais vu.
Et si tu le voyais, tu lui dirais quoi?
Faut pas faire ça. Sinon, j'appelle mon papa, il fait des pichenettes.
Pichenette à qui?
Monsieur Macron.
Et toi, Lou, tu lui dirais quoi à Monsieur Macron?
Ben, je lui dirais, et toi, tu vas aller dans le feu et il va te casser le cou.
Eh ben, moi, je vais lui dire, je vais prendre un couteau, je vais lui couper un cou.
Et ben, moi, ben, je lui dirais, ben, toi, t'as un mauvais caractère. Je vais te jeter de mon balcon et comme ça, je vais te couper le cou et te manger.
Ah, moi aussi.
Avec du sel.
Oui, du sel.
Et moi, j'en sais.
Tout le monde écoute Bras Zéro et tout le monde écoute Bras Zéro et tout le monde écoute Bras Zéro et tout le monde écoute Bras Zéro.
Mes questions sont les suivantes. Chers amis IES, est-ce que vous avez déjà fait la grève? Dans quel cas est-ce que vous pouvez vous mettre en grève? Et qu'est-ce qui vous empêche de faire grève?
En fait, moi, je ne savais pas si ça compte dans la grève, les grèves à la fac. C'est-à-dire quand tu étais étudiant, si c'était aussi une grève quand tu n'allais pas. Parce qu'il y avait soit une manif, soit un mouvement qui fermait la fac. Si ça compte,
t'as en fait, appelé ça une grève?
C'est ça, je ne sais pas en fait. Parce que moi en Espagne, ouais, c'est grève, mais en fait, Hugo, il vient de me dire que grève, c'est plus arrêter d'être payé.
Finalement, après, ça peut être aussi arrêter de faire ton activité. Si tu étudies, tu arrêtes de faire ton activité, c'est grave.
Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que les étudiants, ils n'ont pas le droit de faire grève, ou les lycéens, ou enfin, tu vois, dans le sens où c'est pas une activité salariée. Mais pour autant, c'est quand même cesser l'activité pour réclamer des choses. Quoi.
Ouais.
Et du coup...
Quelle que soit l'activité.
Ouais. Du coup, pour moi, c'est ça le principe de grève.
Ouais. En fait.
Bah, je suis d'accord.
Et depuis que vous êtes salarié, vous l'avez fait?
Moi, ouais. Une fois en Espagne.
En Espagne?
Mais j'étais quand même allé au boulot. Mais j'avais posé le jour de grève. Donc, j'étais pas payé. Je suis allé au boulot, puis j'avais mis sur ma blouse en grève, en gros. Et du coup, c'était bien parce que les gens m'arrêtaient et me demandaient déjà pourquoi j'étais là.
Hein?
Alors que j'étais en grève. Et puis ensuite, du coup, ça me permettait en fait de parler de pourquoi j'étais là aux gens les proches du... Enfin, qui pourraient aussi entendre les raisons pour lesquelles je faisais grève. Parce qu'ils étaient touchés par des choses.
Okay.
Des contestations. Donc c'était cool.
Et du coup, tu t'allais au boulot, tu travaillais?
Ouais.
Mais du coup, comme tu t'affichais en grève, tu pouvais avoir des discussions sur le pourquoi
en
grève. Mais tu n'allais pas au boulot pour essayer de débrayer ou de...
Comment ça?
Débrayer dans le sens de ramener d'autres gens à faire grève, en fait.
Non, je travaillais vraiment, parce que j'ai hésité quand même entre la manif, parce qu'il y avait une manif forcément,
ouais.
Et y aller... et faire en fait une autre forme, enfin profiter de ce jour de grève d'une forme différente.
Ouais.
Quoi.
Mais t'étais tout seul à faire grève?
On n'était pas beaucoup. Hein.
Non.
Ouais. Ouais, on n'était pas beaucoup. On devait être deux ou trois.
Si t'es dans un lieu très isolé, enfin où t'es isolé dans la grève, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué parce que toi, tu vas peut-être te faire du bien en allant à une manif,
ouais.
Mais du coup, c'est très en dehors de ton quotidien au travail, en fait. Enfin.
Ça t'éloigne un peu.
D'aller à la manif.
Ouais, enfin, ouais. Du coup, c'est quelque chose que tu peux pas partager sur ton lieu de travail.
Ouais.
Quoi. Moi, je trouve que ça a vraiment un sens d'aller sur ton lieu de travail quand t'es en grève, en fait. Après, d'aller travailler, moi, j'ai jamais... à chaque fois que j'ai fait grève, j'ai jamais été travailler. Par contre, j'ai déjà été sur mon lieu de travail ou sur mon lieu d'études. Oui, justement, d'aller discuter un peu avec les collègues, avec... Puis après, ça dépend pourquoi c'est aussi, tu vois. Mais si c'est vraiment une grève locale, par exemple, à la fac... Du coup, où t'as des choses à faire pour imposer un rapport de force collective par rapport au conseil d'administration, par rapport à l'administration, voilà, par rapport à plein de choses. Bah, du coup, là, tu fais des actions sur ton lieu aussi de travail, et du coup, ça a un sens d'y être, quoi.
Ouais, ça impacte.
Mais, ouais.
Señorita Mandititita, deje de estarse pintando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café.
Su cara, su aliento, pesta caño y estiércol. Es indiferente cuando soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente. Siempre me minimiza y yo lo odio hasta cuando estoy en misa. Yo le sonrío, de sus chistes me río, pero quiero verlo ahogarse en el río. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Ay, odio a mi jefe. A su secretaria no la regaña, porque ella con la lengua le quita las lagañas. Explotador y mamón, así es de la empresa nuestro director. Me grita, me empuja, con despedirme siempre me asusta. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Cada que puedo, le escupo en el café que le llevo. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Odio a mi jefe, 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 odio a mi jefe. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite.
Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire grève?
Bah là, moi, clairement, la thune. Mais je pense que c'est le problème général. Quand tu fais grève 15 jours, et c'est là où vraiment, en plus, l'État bouge, c'est au bout de 15 jours. Bah, tu peux pas être payé la moitié d'un mois. Donc, ouais, c'est sûr que ça, tu peux essayer de pousser au maximum, mais au bout d'un moment, c'est chaud.
Après, dans certains boulots, enfin, c'est ce que tu décris un peu, mais par exemple, par rapport aux infirmières, je crois que c'est hyper compliqué dans des boulots de soignants ou. En tout cas, tu es engagé à travers d'autres personnes sur des accompagnements. Il y a la culpabilisation. Quoi,
ouais, c'est clair.
En fait, moi, je fais grève, mais du coup, ça veut dire que telle personne ou telle personne
va
en bâtir. Voilà. Et du coup, moi, ça m'est arrivé de ne pas faire grève parce que j'avais des accompagnements importants avec des personnes parce que je travaillais dans le social et que du coup j'avais pas eu le temps de prévenir à l'avance, enfin c'est pas que j'étais indispensable, mais en tout cas à ce moment-là je savais que ça aurait pu être compliqué pour les situations des personnes.
Est-ce que Jean t'avais fait un truc pour pallier après ? Genre tracté ou le week-end, ou est-ce que t'avais eu le ressentiment ?
J'en avais parlé sur mon lieu de travail.
Ouais.
On avait pris du temps pour en parler, c'était pendant le travail, du coup on avait pris du temps pour en parler entre collègues, on en parlait avec les personnes qu'on accueillait aussi sur le lieu. On avait mis une affiche dans un lieu d'accueil collectif, hein, tu vois. Et après, sur des temps où je travaillais pas, je pouvais aller sur des choses qui se passaient. Mais je pense que pour lutter, il n'y a pas que la grève comme moyen de lutte, quoi.
Ouais.
Au contraire. Enfin,
il y a plusieurs choses.
Que c'est un des outils pour lutter par rapport à des trucs.
Mais tu peux être empêché aussi par rapport à ton statut.
C'est ça le truc, ouais. Des remplaçants, par exemple, quand tu travailles comme remplaçant.
Tu peux pas
dans
faire
les collèges, c'est pas que tu peux pas faire, mais en fait, c'est un peu le truc de. Imagine, tu travailles dans moi, tu fais un remplaçant dans moi. Déjà, si tu vas pas au boulot pendant une semaine, imagine. Et bah, c'est un peu. Moi, je le trouve pas trop bien, quoi. Parce qu'en fait, tu es en train de remplacer déjà quelqu'un. Et après aussi, la pression que tu as de la vie de continuer après comme contractuel, comme remplaçant. C'est-à-dire la vie que normalement les proviseurs doit te donner pour dire si c'est positif ou c'est négatif. Et donc si c'est négatif, normalement ils vont pas te rappeler après. Et donc si tu vas pas au boulot, ils vont mettre sur. Bon, ça dépend. Mais sûrement qu'ils vont te mettre un avis négatif pour pas y aller.
Est-ce que genre quand tu étais en cours, au moment de la loi travail,
hein,
tu as parlé avec les étudiants ou tu pouvais parler avec les étudiants de la grève justement?
Avec quoi?
Ouais.
Sur le sujet, par exemple, sur la loi
de travail. Limite, tu vas en cours, tu donnes pas une leçon de grammaire, tu donnes une grosse leçon sociale de grève, et ben ça, c'est presque faire grève.
Ouais, ça, j'avais pas pensé.
Tu cesses ton activité de prof grammaire, enfin une bonne activité sociale, la cessation d'activité aussi.
Ça, c'est vrai, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais ça, c'est un truc que tu peux faire. C'est un peu comme le truc que t'as dit avant, quoi. D'aller au boulot, mais faire autrement.
Ouais, quelque part, ouais.
Ouais, mais faire autrement.
Par contre, tes élèves, ils te détestent parce que d'une part, tu fais pas grève et d'autre part, tu les saoules
pour parler de social. Non, mais ça dépend. Ouais, je sais pas, ça dépend. Ouais.
Que de moins en moins, je trouve, il y a d'expérience ou de mouvements collectifs. Parce que si on a peur, c'est parce que l'autre ne la fait pas, en fait. Finalement, c'est assez marrant parce que chacun a peur que l'autre ne la fasse pas, donc personne ne la fait, quelque part. Mmh. Alors que si tout le monde la faisait...
Bah oui. Bah, il pourrait pas virer tout le monde.
Ouais, il pourrait pas virer tout le monde.
C'est ça. Ou le truc des caisses de résistance, quoi. C'est le meilleur, en fait, quoi. Pour moi, c'est la meilleure solution pour tout le monde. C'est qu'ils ont besoin de l'argent parce qu'ils peuvent pas se permettre de pas y aller au boulot. Ils sont payés, c'est qu'ils peuvent se permettre de pas être payés ce jour-là. Je l'ai dit honnêtement, tu vois, j'ai gagné suffisamment et donc il me faut pas, tu vois, de l'argent pour ce jour. Ça, c'est cool aussi. Mais ça demande un peu de communication dans le travail entre les gens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de communication dans le travail. C'est-à-dire, le boulot, déjà, c'est une compétition. Ce n'est pas un truc coopératif.
Ouais, après, ça peut se faire en dehors, par des collectifs de lutte, par des syndiqués, par des syndicats.
Ouais, mais le mieux, ça serait des. Les gens qui travaillent, par exemple, dans les labos, tu vois, dans un laboratoire, de ne pas y aller.
Ouais.
Personne, en fait. Et ça arrête réellement la productivité, quoi.
Ouais, pour nous, ouais.
C'est l'objectif un peu pour moi de la grève, d'arrêter la productivité pendant un jour ou plusieurs jours.
Après, ça pose aussi la question de la branche, hein, parce que nous, tout le monde s'en foutrait. C'est sûr que tu bloques, je sais pas, tu bloques l'essence ou tu bloques l'administration ou les collèges. Là, les gens, forcément, ça va réagir.
Ça, c'est la police qui expulse les indésirables. Ça, c'est le bruit de la ville défoncé par les engins des promoteurs. Ça, c'est l'office de la tranquillité qui efface et aseptise. Et ça, c'est le bruit de mon marteau dans la vitrine de la métropole.
Contre la métropole, chaque geste compte. Ok, ok, je te raconte. Donc dans la chambre, alors voilà, dans la chambre, le lit se trouvait ici, l'armoire là, et entre les deux, il y avait la table. Jusqu'au jour où j'en ai assez, tu vois. Je déplaçais le lit là, et l'armoire ici. Bon, j'avoue, pendant un certain temps, je sentis couler en moi un courant novateur, vivifiant. Mais au bout de quelques jours, l'ennui revient. Du coup, moi, j'en tirais la conclusion que la source de mon ennui était à la table. Putain, non. Sa position immeublement centrale. Je poussais donc la table là, et le lit au milieu. De façon anticonformiste, quoi. Cette seconde nouveauté me redonna de la vitalité. Et tant qu'elle dura, j'acceptais la gêne anticonformiste qu'elle occasionnait. Oui, parce que bon... En effet, je ne pouvais plus dormir maintenant le visage tourné vers le mur, ce qui avait constitué ma position préférée. Au bout d'un certain temps, néanmoins, la nouveauté cessa d'être nouvelle, et celle subsista à la gêne. Dans ces conditions, je poussais le lit ici, et l'armoire au milieu. Alors là, cette fois, le changement fut radical. En effet, l'armoire au milieu de la chambre, c'était plus que l'anticonformisme, c'était l'avant-garde, carrément. Au bout d'un certain temps, néanmoins... Ah, ce maudit certain temps, franchement. Bref, même l'armoire au milieu de la chambre cessa de me paraître quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Il convenait d'opérer une cassure, de prendre une décision fondamentale. Si dans le cadre ci-dessus défini, aucun changement n'était possible, il importait de sortir complètement de ce cadre. Dès lors que l'anticonformisme se révélait insuffisant, dès lors que l'avant-garde ne donnait aucun résultat, il fallait accomplir une révolution. Je pris la décision de dormir dans l'armoire. Et là, je peux te dire que tous ceux qui ont essayé de dormir dans une armoire savent qu'avec une telle absence de confort, on est absolument assuré de ne pas trouver le sommeil. Sans parler de l'exténuation qui s'empare des jambes et des douleurs dans la colonne vertébrale. Oui, ce fut la bonne décision. Succès, victoire complète. Car cette fois-ci, même le certain temps n'eut aucune prise. Au bout d'un certain temps, non seulement je ne m'habituais pas à mon changement, c'est-à-dire que le changement demeura changement, mais au contraire, je ressentis ce changement avec de plus en plus d'acuité, car la douleur allait croissante à mesure que le temps passait. Tout aurait donc été pour le mieux. N'eût été ma résistance physique qui s'avéra limitée. Une certaine nuit, je n'y tins plus. Je sortis de l'armoire et je m'allongeai sur le lit. Je dormis 3 jours et 3 nuits. Après quoi, je poussais l'armoire contre le mur, là, et la table au milieu. Car l'armoire au milieu me gênait. Maintenant, le lit se trouve ici, comme avant, et l'armoire là. Et entre les deux, il y a la table. Enfin voilà quoi, tout ça pour dire que moi, quand l'ONU me guette, je me remémore l'époque où j'étais révolutionnaire.
À zéro, approche tes mains du micro.
Liana ?
Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
T'as pas entendu un truc bizarre ?
Si.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Macron qui finit d'exploser tous les derniers droits qu'on avait encore un peu. Des fois, il y a raideur, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal.
Ah.
Et qui dit explosion, dit mouvement social. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure.
Ah, d'accord. La la la, la 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 la, la 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 la. Dis donc.
Quoi ?
Tu sens pas le brûler ?
Bah ouais, c'est normal, je t'ai expliqué. Il y a un mouvement social.
Ouais.
Et l'agitation sociétale due à ce mouvement social...
La quoi ?
L'agitation sociétale.
Ah oui, oui.
...provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui, d'accord.
C'est alors ce qu'on appelle l'insurrection. C'est normal.
Ah.
Tu comprends ?
Oui, oui.
La 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 la
Qu'est-ce que tu voulais ?
Là, je voudrais savoir. Toutes les banques sont en train de brûler, c'est bien ça ?
Mais oui, écoute. Les symboles du capitalisme morflent en premier, avec les agences d'intérim et les forces de répression. Tu comprends ?
Ouais, ouais.
C'est normal, parce que de toute façon, les travailleurs et les travailleuses et les improductifs en ont gros sur la patate.
Ouais.
Alors le feu, c'est chouette et c'est efficace.
Ah ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'une révolution.
Ah, une révolution.
C'est normal.
Ah ouais, ouais, ouais.
Oui ?
D'accord. La 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 la. La 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 la.
Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Tu te sens pas comme si on commençait à cramer, là, un peu ?
Écoute, écoute.
Oui.
Essaye de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens de la révolution ?
Ouais.
La destruction du capital par les flammes.
Ouais.
Bon, ça veut dire que pas mal de structures de domination ont disparu.
Ouais.
Et que nous sommes beaucoup moins contraintes.
Ah, ouais, ouais.
Or, une vie moins contrainte permet toutes les inventions et tous les changements. C'est ce qu'on appelle la révolution sociale. C'est normal.
Ah, ouais.
C'est tout à fait normal.
C'est la révolution.
Voilà.
Nous avons la colère.
Vous avez Robocop ?
Nous avons la colère.
Vous avez des bunkers ?
Nous avons la rue.
Vous avez des technocrates ?
Nous avons les trains.
Vous avez les experts.
Nous avons les centrales.
Vous avez les décideurs.
Nous avons les machines.
Vous avez le mensonge.
Nous avons le scandale.
Vous avez l'argent.
Nous avons la dignité.
Vous avez le pouvoir.
Nous avons l'énergie.
Vous avez l'économie.
Nous avons la communauté.
Vous restez de glace.
Alors nous, on vous met le feu.
Vous êtes une puissance abstraite.
Et nous sommes la société.
Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
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 Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero ?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero ?
Eh, hey, Brasero, ça raconte quoi, Brasero ?
Brasero.
Ça raconte quoi,
Brasero ? Qu'est-ce que tu racontes ?
Tu la racontes ou tu racontes ?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero ?
C'est l'histoire de Blanche-Neige qui s'en va en lutte.
Il était une fois, dans un royaume pas si lointain, une personne nommée Blanche-Neige. Fille du roi et de la reine, elle faisait partie des personnes les plus privilégiées de ce monde, mais ne s'en rendait pas compte, et n'avait du monde extérieur qu'une pensée hautaine et lointaine. Blanche-Neige passait la plupart de son temps dans son château. Elle allait et venait, dans une solitude légère, parsemée de visites familiales et mondaines.
Un jour de printemps, alors qu'elle errait dans la grande et somptueuse bibliothèque du château, un épais livre d'un rouge éclatant tomba à ses pieds. Intriguée, elle le ramassa, l'ouvrit et le lut.
Ce livre lui plut tellement qu'elle retourna à la bibliothèque chaque jour durant 4 saisons et dévora, en un an, tous les livres du même rayon sur lesquels s'inscrivaient théories politiques et critiques. C'est ainsi qu'elle eut accès à des textes politiques divers et son esprit devint au fil du temps clairement révolutionnaire.
4 saisons étaient passées et Blanche-Neige se transforma. Désormais, elle épouserait la cause des plus démunis. Elle prendrait du recul sur sa vie et irait même jusqu'à devenir végétarienne. Les mois passèrent. Sa soif de théorie ne s'éteignit pas. Mais peu à peu, elle sentit naître en elle le besoin de lutter concrètement. Et ce, de plus en plus vivement.
S'échapper des mots,
disait-elle seule dans sa haute tour,
afin d'enrayer le système capitaliste qui empoisonne le monde.
Un matin du mois de mai, les cerisiers étaient en fleurs, c'était le temps des cerises. Elle entendit des cris et des bruits à l'extérieur du château. Passant la tête par la fenêtre, elle aperçut une foule de nains passant devant sa demeure. Ce vacarme n'était autre qu'une manifestation organisée par le syndicat des nains mineurs,
qui se battaient contre la délocalisation des mines de charbon. Leur patron, le grand méchant loup, voulait licencier tout le monde et partir dans le royaume de Chronos, où le temps du travail coûte moins cher.
Les nains virent Blanche-Neige et crièrent dans le mégaphone.
« Cesse de nous regarder! Rejoins-nous !»
En entendant cela, son sang ne fit qu'un tour. Elle descendit en courant les 584 marches de son escalier en colimaçon et se glissa dans le cortège syndical. Après la manif, elle resta avec les nains. Aussi le jour suivant, et même le surlendemain, Blanche-Neige finit par passer le plus clair de son temps dans la lutte, s'investissant totalement dans le syndicat, se mettant à écrire des textes, des slogans. À la fin du mois de mai, après un mois de lutte, Blanche-Neige décide de quitter son château et ses privilèges et part vivre avec les nains dans leur maison.
Le temps passait, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait utile à d'autres. En effet, pendant que ses camarades passaient leur journée entière à tenir les piquets de la grève, elle gérait le lieu, faisait des récup avec tous les animaux, s'occupait d'une grande partie des tâches ménagères, photocopiait les tracts et préparait le repas de ses braves grévistes. Lorsqu'ils rentraient enfin, elle discutait avec eux de la lutte et enrichissait les débats de toutes ses connaissances. Ils la considéraient comme une vraie mère.
Le temps passait encore, et à son grand désespoir, après 8 mois de lutte, elle n'avait encore jamais participé à une action directe. Elle avait déjà demandé 1000 fois si elle pouvait accompagner les nains, mais les réponses étaient toujours les mêmes, paternelles et sans pitié.
C'est dangereux pour une jeune et jolie jeune femme comme toi. On ne voudrait pas que tu t'abîmes. Tu sais, Blanche-Neige, parfois il faut courir vite, et puis tu es indispensable à la maison.
Ben ouais, qui nous ferait notre casse-croûte d'après manif si t'étais pas là?
Puis tu sais, les nanas, ça leur va pas trop la cagoule.
Jusqu'au jour où il se passa quelque chose. Et ce quelque chose commença comme un rien du tout. Ce qui d'ailleurs est souvent le cas des quelque chose. Ce quelque chose commença donc lors d'une grande assemblée générale qui réunissait, comme chaque semaine, les gens du royaume et plus loin encore.
Bon, c'est vrai qu'au début, c'était comme d'habitude. Il y avait des nains, des elfes qui expliquaient aux autres comment doit s'organiser la lutte et en définitive, qu'est-ce que ça voulait dire lutter. Blanche-Neige était un peu à bout, c'était toujours pareil. Elle avait de plus en plus l'impression que cette histoire ne menait nulle part.
Tout à coup, elle entendit une voix au loin.
Blanche-Neige, Blanche-Neige !
Elle se retourna et vit deux silhouettes. Celle d'un petit cochon à l'air sympathique et celle d'une petite fille à la cagoule rouge.
Eh, les amis, vous les avez reconnus ? Vous vous souvenez ? C'est Nouf Nouf et la petite cagoule rouge qui se sont fait remarquer dans la région voisine pour leurs actions dignes de contes de fées.
Ils interpellèrent Blanche-Neige.
T'en as pas marre d'entendre parler tout le temps les mêmes personnes ?
T'as pas envie d'agir toi aussi ?
Viens, on va leur dire le fond de notre pensée.
Après une discussion passionnante avec Blanche-Neige, les trois complices rentrèrent dans la salle plus déterre que jamais.
Dans la salle, la discussion de l'Assemblée Générale tournait en rond. 3 heures pour décider si le blocage durerait 1 heure ou 1 heure 10, s'il fallait prendre des saucisses ou des merguez. Et pour l'instant, tout ça n'avait servi à rien. C'est alors que nos trois amis décidèrent de prendre la parole.
C'est quoi votre délire avec votre piquet de grève tout pété là ? Faut passer à la vitesse supérieure.
Grève, blocage, sabotage, manif sauvage.
Intéressés ou interpellés, tous les membres de cette joyeuse réunion se mirent à écouter les récits de Nouf Nouf et de la petite cagoule rouge. Les actions collectives sur les lieux de travail qu'ils avaient bloqués, les actions d'autoréduc qui avaient mis un sacré coup au supermarché du grand méchant loup.
Dans l'assemblée générale, leur récit posa quelque chose d'assez étrange. D'abord, il y eut comme un silence grondissant. Puis, les gens commencent à chuchoter de plus en plus fort. On sentait que quelque chose prenait, comme un étrange feu qui commencerait à brûler.
Au bout d'une semaine, le discours éloquent de nos complices faisait son effet, même sur les nains. Ils commencèrent à s'autogérer, et une grande partie des nains et des elfes s'organisaient désormais en dehors des cadres syndicaux. Ils organisaient des AG indépendantes, lançaient des appels à rassemblement et prenaient les têtes de cortège pendant les marches syndicales.
Même que souvent ça partait en manif sauvage, voire en grosse émeute et qui défonçait tout avec leurs pioches de mineurs.
Les médias se servaient de ça pour faire de la propagande, en les désignant comme des groupuscules de casseurs anarchistes d'extrême gauche. Mais les nains n'en avaient plus rien à foutre de leur image médiatique et continuaient de cramer des trucs à leur guise en chantant
« On est tous des casseurs mineurs, sifflés en émeutant. »
Non mais, ah, stop ! Mais c'est, ça devient n'importe quoi. Enfin, là, ils deviennent hyper violents. Enfin, je veux dire, c'est hyper trash, quoi.
Ouais, bah en même temps, la violence, elle vient du grand méchant loup. Du coup, c'est légitime.
Ah ouais, non, mais attends, c'est légitime. En même temps, s'ils cassent tout, comment tu veux qu'ils trouvent du soutien après ? Enfin, je veux dire, ils peuvent pas faire tout seuls, quoi.
Non, mais attends, c'est bon, on va pas passer deux plombes là-dessus. On retourne au compte. C'était le 10e mois de la lutte. Et depuis 2 semaines, tout s'activait. Mais toujours pas pour Blanche-Neige.
Ah ouais, c'est bien beau l'autonomie politique. Mais l'autonomie pour qui ? Moi qui croyais que sortir des idérances des syndicats les ferait évoluer, ils sont toujours aussi cons, hein, toujours aussi bornés.
Blanche-Neige, c'est dangereux pour toi, reste ici.
Eux, ils disent autogestion. Autogestion, mais ils croient qu'ils s'autogèrent tout seuls, le ménage du squat. Et ce soir, hein, c'est qui a tout prévu pour la soirée de soutien des mineurs incarcérés ?
Le soir même, à la soirée de soutien, alors qu'elle venait de finir de ramasser les assiettes éparpillées aux 4 coins de la salle, Blanche-Neige sort fumer une clope avec Petite Cagoule Rouge. Très vite, en discutant, elles se rendent compte qu'elles partagent beaucoup d'expériences similaires et qu'elles sont loin d'être seules dans ce cas-là.
Jasmine, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Podane, toutes sont exclues des actions directes par les camarades machos.
Pour pouvoir s'organiser loin des gros bolos sexistes qui pensent avoir tout compris à la lutte, elles décident d'organiser des actions entre elles, des actions non mixtes, à la fois pour dénoncer le problème de la délocalisation de la mine, mais aussi pour révéler les problèmes de sexisme, notamment dans la maison des nains autogérés. Non mais attends, là je comprends pas, parce qu'elles font des actions contre l'exclusion des filles, et au final c'est des actions non mixtes. Si les mecs ils participent pas à ça, ils vont rien comprendre du tout, ils vont pas changer quoi.
Non mais en fait ça fait des mois qu'elles essayent de faire comprendre aux gars que ça marche pas du tout cette histoire. Forcément à un moment elles s'organisent,
bah ouais,
elles ont
il faut les faire participer, enfin je veux dire
bon,
si tu t'organises...
Vas-y, on reprend le compte là, on va perdre tout le monde. Hein.
Le premier matin du mois d'avril, après quasiment 1 an de lutte, le loup fit une déclaration publique.
Nains de tous les pays, je vous ai compris. J'ai entendu votre demande. La mine ne sera pas délocalisée et vous garderez vos emplois. Fiers nains, vous êtes la lueur brûlante de notre nation.
Et dans le pays des nains, tout est bien qui finit bien.
Qui finit bien, mais enfin, pour moi, ça finit pas bien du tout. Là, ils continuent à se faire exploiter, là, en travaillant encore à la mine.
Ouais, mais bon, enfin, c'est un compte, faut bien que ça finisse bien, quoi.
Non, puis au final, ce qui est important, c'est tout ce qu'ils ont créé pendant le mouvement. Ils ont ouvert des maisons, ils ont fait des trucs ensemble, ils se sont rencontrés, quoi.
Non, mais là, c'est pas fini du tout. Ils ont gagné une bataille, encore toute une guerre à mener. Enfin, je veux dire, il y a 1000 sujets qui doivent discuter, emporter.
Ça fait 6 mois qu'ils sont en grêve, là.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Está quieta la herramienta, es la hora de luchar. Porque quieta la herramienta. Yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, 1,000,000 por ellos vale, y ellos por mí. El impuesto está arado de la fábrica al telar, todos los trabajadores a la huelga general, todos los trabajadores a la huelga general. A la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, 1,000,000 por ellos, madre, ellos por mí.
Negros, obreros, campesinos, la gente de la calle, se construye día a día, por comerse un pan, por llevarse un pan a la casa, para ustedes nuestra cumbia. Proleta.
huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, millón por ellos, madre, ellos por mí. Compañera, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, 100 a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí.
En lutte individuellement et à la fois être en lutte collectivement. Et individuellement, oui, aujourd'hui, je pense que je me sens en lutte dans la mesure où j'essaye de de déconstruire des choses en moi. Et enfin pareil, enfin juste je pense qu'on peut se dire en lutte à partir du moment peut-être où on réfléchit et on prend pas comme acquis tout ce que la société nous offre et nous livre ou nous impose. Et du coup sur ma place dans ce monde et comment je peux arriver à déconstruire ce qui m'est imposé, par exemple en tant que meuf, et au contraire sur en quoi parfois j'ai une position plus privilégiée et comment je peux mettre mes privilèges peut-être au service de d'autres gens ou trucs comme ça. Et du coup voilà, après enfin voilà, par exemple en habitant en squat, je me sens un peu en lutte parce que par exemple voilà, je mets de côté mon confort et ça me permet de pas travailler et du coup de dédier plus de temps à des choses militantes. Et après voilà, mon militantisme, enfin voilà, je sais pas si aller en manif ou des trucs comme ça, c'est vraiment être en lutte, et ça c'est un peu galère. Enfin parfois je pense que c'est plus de la sociabilité, se donner de la force enfin à nous-mêmes, que vraiment être en lutte contre un système. Mais
bon, j'ai l'impression qu'à mon échelle, la lutte individuelle elle est rare et qu'il s'est toujours posé collectivement. Que ce soit parce que c'est dans ton cadre de travail, que ce soit parce que c'est dans ton cadre de vie, ou parce que généralement on est dans des pseudo-milieux militants où on est plusieurs, de fait on n'est pas seul.
Mais il faut de l'énergie, ça demande de l'énergie, en fait la lutte elle demande de l'énergie. Parce que des fois c'est plus facile de se faire emporter par le courant plutôt que d'aller en contre-courant. Donc il faut... Il faut de l'énergie, faut des arguments, faut construire voilà, son raisonnement, faut le défendre. Enfin, tout ça, ça se travaille, tout ça, ça demande du temps, et du temps, de l'organisation, beaucoup d'énergie.
Il faut se mettre en jeu, et du coup, on ne se met pas en jeu seulement en pensant qu'il faut être en lutte, quoi. On se met en jeu en... Je sais pas, en ouvrant des bâtiments, en rencontrant des gens, en faisant des bouffes, en allant se friter contre des fachos. Enfin, en fait, il y a plein de manières... Et là, c'est hyper réducteur ce que je dis, parce que c'est vraiment que un truc que je lis sous le prisme d'un engagement politique, un peu genre engagement militant, tout ça. Mais il y a plein d'autres manières d'être en lutte, mais... Bref.
Comme ?
Ben, je sais pas. Pour moi, tu vois, la lutte, elle peut se retrouver dans le secteur du travail, où il y a des gens qui se mettent en lutte en faisant des grèves ou en essayant de contrer des directives institutionnelles. Ou... Enfin, en fait, j'ai l'impression que à chaque fois que tu essayes de mettre, par exemple, des bâtons dans les roues, des trucs qui sont imposés, notamment par l'État, par exemple, et ben voilà, tu commences à être en lutte, quoi. Du coup, je sais pas, être en lutte, ça peut aussi vouloir dire saboter des machines, ou pas forcément saboter des machines, mais je sais pas, genre faire des petits actes de résistance, quoi. Mais pour moi, la lutte, c'est pas que la résistance, parce que c'est pas que un truc de contre, en fait. Enfin, c'est pas que une réponse à quelque chose, en fait. Enfin, contre quelque chose. C'est à la fois de la destruction, des petits actes de destruction, et à la fois des actes de construction. Et c'est un mouvement perpétuel entre les deux, en fait. L'un ne va jamais sans l'autre.
Bras zéro et vénère, pas prêt à se taire. Bras zéro et vénère, pas prêt à se taire. Bras zéro et vénère, pas prêt à se taire.
Des mots tuent. Mais avant ça, ils sont tués. J'ai écrit ça pour commencer. J'étais tellement perturbé, empêché, muette et étranglé. Les mots ne tuent pas tout seuls. Les mots, quand ils mentent, tuent. Et ils mentent. Ils inversent le rapport aux choses, montrent le contraire de ce qu'on voit. Ils nient la chose. Ils n'arrêtent plus de mentir, tellement qu'on les rend responsables, on dit.
Ça suffit, les mots, tous les mots. Taisez-vous.
Et quand on les avait jusque-là tellement en source, en ressources, en plaisir, on baisse la tête accablée. On est impuissant. On est devenu débile à souhait. C'est tellement ce qui nous arrive. Je n'ai pas fait la liste, mais depuis que Macron a écrit Révolution, que Marine Le Pen a parlé de diversité, c'est phénoménal. C'est toujours plus. Toujours plus de mensonges, à devenir fous. Attention, nous allons devenir fous.
Nous devenons fous.
Nous devenons fous.
Nous devenons fous.
Nous devenons fous.
Guéant était condamné à 2 ans, dont 1 avec sursis. Mais l'autre, l'année ferme, n'allait pas la faire non plus.
Non.
Ferme, mais pas ferme.
Oh, mais non.
Oui, mais non.
Mais non.
Non, mais oui.
Un viol n'est pas un viol.
Un accident.
Un accident ?
Un accident ?
C'est d'un atroce cynisme, la blessure de 10 cm dont l'anus est hors de doute.
Un accident.
C'est d'un atroce cynisme qui tue d'appeler la violence accompagnée d'insultes, hors de doute, accident.
Oui, mais...
Oui, mais non.
Non, non. Non
oui,
non,
mais non. Non.
Oui, mais
non. Non, non, non.
La faute de la victime.
Un accident.
La vieille affaire.
Un accident.
Le vieux mensonge pervers.
Un accident.
Exactement lui, qui ne permet pas, ne permettra jamais à la victime de se retaper un peu, se réparer.
Mais un accident.
C'est tout le viol d'ailleurs qui est nié.
Un accident.
Ça n'existe pas.
Non, 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 non.
La domination et la torture.
Non plus.
Non plus.
Non, 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 non.
Comment briser quelqu'un? Il y a plein de moyens.
Plein.
Le viol et le déni du viol.
Accident.
On est en train de devenir fou.
On est en train de devenir fou.
Je parle ici qui nous rendent fous. Des mots et des énoncés officiels. Je parle même pas des énoncés courants sur les réseaux sociaux de ce qu'on nomme cyberattaque. De 140 signes qui peuvent faire ou défaire des présidents. Les énoncés officiels mentent.
Le rapport de l'IGPN est une honte.
Une pure honte.
Un accident.
Les mots sont verts de honte.
Bleu, blanc, gyrophare.
Ils n'ont plus qu'une envie.
Se défiler.
Ils le voient bien, les mots. Qu'ils cherchent à clouer au pilori le bon sens et quelque chose comme le rapport. Les rapports.
Le lien.
Les liens. Liens.
Les liens.
Ils s'étouffent.
Ils étouffent.
Ils sont devenus fous, les mots, tués à force de servir
ils
à l'envers.
Ils sont devenus les mots, tués,
ils sont
à force de servir à l'envers. Ils sont devenus vecteurs de cruauté. On a la tête à l'envers. Le corps pèse le poids des pierres.
Le poids des pierres. Vendredi.
Vendredi, alors qu'il neige ou presque à Paris, sous le pont. Porte de la chapelle, la mairie a fait installer de grosses pierres. Ainsi, les personnes sans refuge ne pourront plus s'allonger les uns contre les autres pour se tenir un peu chaud sous ce pauvre abri qu'est le pont. Même pas un pont.
Même pas
Même pas les corps contre les corps.
Au lieu des corps.
Combien le prix des pierres ? Combien le prix d'une nuit pour une personne dans un centre d'hébergement ? On n'est pas seulement en train de devenir fou.
On devient fou !
On est en train d'accepter la grande, grande cruauté qui vient. Où est venue ?
Au réveil, la prison saute à la gorge, comme un animal à l'affût de l'ultime cauchemar. Le premier sens en éveil m'avertit de sa présence, tapis, un coin de mur surgissant de l'aube, l'odeur du désinfectant, les ablutions diverses des congénères, l'effleurement de la couverture administrative et l'écœurement indicible. Elle me pénètre d'un trait, sa langue enfoncée dans la bouche. Elle me baise de sa mort journalière, sans fleurs ni couronne, au tréfonds des caveaux de béton du « je ne le ferai plus » et des lâchetés misérables. Souveraine tyrannique, la mala mort de la lèpre moderne est là, déjà en moi, et pas moyen de lui échapper. Jusqu'au plus lointain du dernier exil, j'éprouverai cette nausée. On ne s'habitue jamais à la prison. Mon voisin d'en face craignait ce réveil réglementaire comme le cancer qui le consumait sur l'ultime bûcher. Il en avait peur. Il lui remémorait trop sa propre maladie, son aboutissement. Face à l'exécration, il finit par inverser sa nuit en se couchant à l'aube, pied de nez dérisoire au destin. Le Max, lui, se levait d'un coup, au milieu de la nuit, vers 3 ou 4 heures, hiver comme été, et entreprenait des séries étourdissantes de pompes. Il pensait surprendre le matin et rester le plus fort, effacer le temps, comme on lui avait pris sa vie.
7h15.
Les clapotis de la serpillière sur le dallage de la coursive marquent l'heure aussi précisément qu'un coucou suisse.
7h20.
L'un après l'autre, les verrous de la coursive du premier lancent leur plainte grinçante. Puis, c'est le régulier claquement de l'ouverture automatique des grilles. Les travailleurs partent aux ateliers. Tout est réglé. Une vraie partition carcérale. Et je connais la musique. 6 années que je suis ici, au même étage, du même côté. Ma fenêtre donne sur la cour des cuisines.
7h45.
L'énorme ventilo se met en route. Et je suis le premier informé de la composition du repas de midi. 6 années passées au second étage sud du bâtiment B.
8h.
D'un coup, les sonnettes d'appel clignotent avec des airs de chant de rainette au printemps. Certaines coassent plus lentement, plus timidement. D'autres sont impératives. Les portes s'ouvrent, les premières conversations, la rumeur des douches. Les prisonniers se croisent dans l'ombre du couloir. Certains sont en peignoir, d'autres en short, la serviette sur l'épaule. Le crépitement des claquettes apporte une touche d'opéra chinois.
8h30.
Je remonte le courant des gars quittant la coursive pour la première promenade. On serre des mains, par habitude, par indifférence, pour montrer qu'on n'est pas en guerre. On se force pour quelques-uns, on ignore les autres. Le long du couloir, chaque porte entrouverte laisse échapper l'âme radiophonique de l'habitant. Je reconnais le chroniqueur à l'intonation, au timbre de la voix. Et partout, MCM diffuse sa programmation promotionnelle. C'est la pensée unique. C'est la musique insipide. C'est la marchandise qui nous assaille jusqu'ici. L'avant-dernière porte est la mienne. L'entrée de ma peau de béton nu, de ma coquille, de ma carapace. Les yeux cathodiques de cette seconde peau cellulaire m'épient. Ils me font face. Sans son, la télé déverse ses images criardes. Je la laisse tourner en front. Une habitude depuis l'isolement, pour tromper l'animal social. L'impression d'être avec quelqu'un, avec du vivant.
quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le monde est un jardin, tenons-nous par la main. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. Nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Dans les papiers qui traînent, blancs comme des migraines, blancs comme des mâles blancs près des chantiers dormants. Gavons-nous de beignets, de frites et de poulet. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. Nous irons voir flamber la ville tuméfiée. La vie est une foire, j'ai mis ma robe en moire. Mon frère est un raté car il est décédé. Allons-nous dévorer dans les hôtels meublés. Nous aurons des mégots au fond du lavabo. À l'aube, les blessés cesseront de tousser. Nous l'entendrons pleurer comme de l'eau qui boue. Les enfants sont tous fous. Allons-nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau.
Radio Canal Sud 92.2, 40 rue Alfred de Miril, numéro de téléphone 05 61 53 36 95 pour l'antenne. Et pour le bureau,
c'est le 05 61 25 95 43.
Voilà. Canal Sud 92.2. Voilà.